Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour Corinne Morel-Darleux.
Bonjour.
Nouveau compte-rendu de mandat radiophonique en cette rentrée de septembre suite à la commission permanente du 20 septembre. Beaucoup de sujets encore une fois. Un bon été pour vous ?
Oui, un excellent été qui s'est passé dans le Diois et notamment
dans la montagne.
Voilà, exactement.
Ça va la montagne dioise, hein, rapport à l'écologie ?
Oui, oui, pour l'instant, elle survit assez bien. Elle est surtout très attaquée par les pyrales du buis. Mais du côté du réchauffement climatique, nous n'avons pas encore d'écroulement sur le Vercors.
Cette commission permanente a peut-être été un peu marquée, lancée en tout cas par ce fameux SMS de rentrée. Hein. Laurent Wauquiez a écrit à tous les lycéens.
Oui, alors effectivement, l'ensemble des lycéens de la région ont reçu un petit texto de Laurent Wauquiez le jour de la rentrée scolaire pour leur souhaiter une bonne rentrée, ce qui a surpris beaucoup de monde. Parce que,
juste comme ça, bonne rentrée à vous tous. Quoi.
Voilà, tout à fait. Alors l'intention peut être louable. Ce qui l'est moins, c'est de savoir comment Laurent Wauquiez s'est procuré les 06 de l'ensemble des lycéens de la région. Alors il se trouve que, en fait, ça passe par les fichiers des différentes cartes jeunes de la région, sauf que ceux-ci ne sont pas censés être utilisés juste pour dire coucou, mais à des fins informatives. Donc évidemment, ça pose question à l'heure où on met en place un nouveau règlement européen dit RGPD, et puis à l'heure aussi où cette rentrée était marquée notamment par l'interdiction des téléphones portables dans les lycées, c'était un peu paradoxal. Donc évidemment, beaucoup de parents d'élèves s'en sont émus, des élus également. On a d'ailleurs une élue de notre groupe, Myriam Laïdouni-Denis, qui est elle-même mère d'un jeune lycéen qui a reçu ce texto, qui a donc saisi la CNIL pour savoir les conditions effectivement d'utilisation de ce fameux fichier détenu par la région de l'ensemble des 06 de ces lycéens.
Alors c'est quoi ? C'est la carte EMRA là notamment ? Enfin c'est ces dispositifs-là dans lesquels les lycéens ont d'eux-mêmes donné leur numéro de téléphone ou c'est pas obligatoire ?
Oui, tout à fait. Alors c'est effectivement ces dispositifs-là. Il y avait une petite case à cocher pour les lycéens s'ils souhaitaient ne pas recevoir les informations de la région. Alors évidemment, la plupart ne pensent pas forcément à cocher cette case. Après, la question porte aussi sur la nature du message, puisque là, en l'occurrence, il n'y avait pas de caractère informatif. Après, très honnêtement, voilà, c'est vrai que ça a fait la polémique de la rentrée, parce que les journalistes sont assez friands de ce genre de choses, et que du coup, c'est dans le quotidien immédiatement visible, donc ça a touché pas mal de personnes. Après, il ne faut pas non plus trop s'y attarder, dans le sens où, malheureusement, ce petit texto de rentrée est un peu l'arbre qui cache la forêt, notamment si on parle des lycées concernés par la région, puisque c'est une de ses principales compétences.
On va en parler. Juste une dernière question là-dessus. Ça a un coût quand même d'envoyer des SMS à je ne sais combien d'élèves ?
Oui, probablement. Alors je ne sais pas, peut-être que la région a négocié un tarif de gros.
Ça n'apparaît pas dans les budgets que vous aviez étudiés par exemple ? Il n'y a pas une case avec écrit « on enverra un SMS ».
On n'a pas ce niveau de détail hélas quand on reçoit les documents budgétaires.
L'arbre qui cache la forêt. Donc oui, Laurent Wauquiez fait une rentrée en lycée privé d'ailleurs.
Oui, alors c'est effectivement là aussi un choix assez partisan, on va dire, idéologique, puisque Laurent Wauquiez a choisi de faire sa rentrée publique dans un lycée privé, le lycée de Saint-Jean-de-Brioude, et de mettre en évidence le fait que la région investissait dans ce lycée privé pour une extension du CDI et du gymnase. Alors, ce qui serait bien, hein, si tous les lycées étaient logés à la même enseigne. Ce qui l'est moins, c'est de voir que la région, là, lors de cette dernière commission permanente, a à nouveau accordé une somme importante au lycée privé de la région, de plus de 10 millions d'euros. et que pendant qu'on agrandit le gymnase de certains lycées privés, bah, on a toujours des lycées publics qui fuient, qui manquent de chauffage. Ça a été le cas par exemple l'hiver dernier, un lycée de l'Ain a dû fermer plusieurs jours parce que le chauffage ne marchait plus. Donc voilà, on invite Laurent Wauquiez à se préoccuper déjà des besoins de base dans les lycées publics avant de s'intéresser à des extensions de CDI dans les lycées privés.
Pour quelles raisons est-ce qu'il y a toujours comme ça une espèce de connivence avec le privé ? Quel est l'enjeu là-dessus ?
On
comprend mal d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on ne défendrait pas ne pas défendre les services publics, d'accord, mais enfin ces lycées sont régionaux, il y a quand même...
Il y a une logique de proximité culturelle, entre guillemets, puisque un certain nombre de ces établissements privés le sont par un biais confessionnel, et notamment on a pas mal d'établissements de religion catholique. Après, il y a aussi probablement des réseaux... d'affinités plus larges. Et puis, il y a des questions aussi idéologiques dans les choix d'investissement qui sont faits, puisque au-delà de la question publique-privée, on peut aussi s'interroger sur le fait qu'on vient de voter, lors de cette dernière commission permanente du 20 septembre, à nouveau des investissements de 615 000 euros de caméras de vidéosurveillance. Dont un certain nombre vont aller équiper justement des lycées, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, puisque là pour le coup tout le monde est logé à la même enseigne. Ça aussi c'est des choix idéologiques qui visent à mettre en avant le caractère sécuritaire de Laurent Wauquiez et donc... j'imagine, tranquillisant pour un certain nombre de nos concitoyens. Sauf que ce qui tranquilliserait beaucoup les parents d'élèves, c'est de savoir que leurs enfants, sont bien accueillis et peuvent apprendre dans de bonnes conditions, déjà pour commencer, avant de songer à équiper de caméras dont on sait en plus que la plupart du temps, malheureusement, elles ne résolvent pas grand-chose.
Oui, c'est ça, il n'y a pas d'objectif précis derrière. Enfin, la sécurité dans les lycées, c'est pas non plus... C'est plus d'élèves entre élèves ou ce qui viendrait de l'extérieur ?
Non, en fait, au départ, ça a été justifié par Laurent Wauquiez pour contrer la menace terroriste. Ouais. On peut se demander effectivement jusqu'où on va aller sous couvert d'état d'urgence et de menaces terroristes dans le tout sécuritaire. D'ailleurs, Laurent Wauquiez vient de faire une conférence de presse pour demander à ce que les présidents de région aient des pouvoirs de police, comme c'est le cas aujourd'hui des maires. Il faut rappeler qu'un de ses vice-présidents, M. Meunier, est un des parlementaires, un député qui avait proposé d'armer l'ensemble des parlementaires après les attentats de Paris. On est en train là de rentrer dans une logique extrêmement dangereuse à l'américaine, où on va libéraliser le port d'armes, on le voit, hein, c'est une proposition qui revient sur la scène, où on va rendre gratuit, comme ça a été fait au niveau de la région, les TER pour les policiers armés en dehors de leurs heures de service. Donc voilà, il y a une espèce de course à l'échalote, là, de surenchère sécuritaire, fait oublier à tous ces responsables politiques qu'il y a des besoins de base, des besoins fondamentaux aujourd'hui qui ne sont pas respectés dans nos services publics et notamment dans nos établissements scolaires, dans nos collèges et dans nos lycées. On a le cas ici dans le DIWA, même si c'est une question qui ne relève pas directement de la région mais avant tout du rectorat, puisque aujourd'hui, à la cité scolaire du DIWA, il n'y a plus qu'un poste d'infirmiers scolaires pour l'ensemble des élèves de la cité scolaire, mais aussi pour l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires de l'ensemble du DIWA, ce qui veut dire que concrètement, on a un seul infirmier scolaire pour 1600 élèves sur un territoire rural et étendu comme celui du DIWA.
Oui, ça ressemble à l'hôpital. Hein. Enfin, on a déjà vécu tout ça, quoi, en fait.
Absolument. ça relève de la même logique, effectivement, de dégradation des services publics et de ce sentiment de territoire laissé à l'abandon, avec en plus des conséquences très concrètes, puisqu'on imagine bien que l'infirmier scolaire ne peut pas faire face à l'ensemble des tâches qui lui sont dévolues, puisqu'il gère les petits bobos comme les gros malaises, il gère les accidents. C'est lui aussi qui est censé gérer les dispositifs de prévention aux addictions, par exemple, ou la lutte contre les violences scolaires ou le harcèlement à l'école. Il est évidemment incapable de faire face, malgré toute sa bonne volonté, à l'ensemble de ses tâches avec 1600 enfants sous sa responsabilité. Et on sait aussi que, vu les distances dans le DIWA, vu le fait qu'un certain nombre de gamins sont internes aussi au collège-lycée, et bah, les parents ne peuvent pas, comme ça, dans l'heure, venir chercher leurs enfants pour pallier au manque de personnel. Donc on est là face à une situation particulièrement absurde et révoltante. C'est un poste qu'il manque. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller signer la pétition qui a été mise en ligne pour demander justement un deuxième poste au niveau du rectorat.
Oui, là concrètement, c'est ça l'action aujourd'hui, c'est de faire à minima au moins une pétition pour essayer d'alerter un petit peu le...
Oui, à minima, et puis de faire connaître cette situation qui est absolument intolérable. On est dans un pays qui est riche, qui est développé, et on se retrouve sur des choses aussi basiques, aussi fondamentales que l'éducation de nos enfants dans des situations qui peuvent même s'avérer dangereuses. Puisque, voilà, aujourd'hui, concrètement, un gamin qui fait un malaise au collège ou au lycée ne sera pas pris en charge correctement pour cause voilà, de réduction des budgets alloués à ces établissements publics.
Est-ce que c'est préjudiciable aussi pour cette cité scolaire, puisqu'on parlait de l'internat tout à l'heure, donc il y a cette section cirque sur la partie collège, quand même potentiellement un certain nombre d'internes, et puis évidemment la section sport nature qui en draine une autre partie. Est-ce que ça pourrait faire comme on l'a entendu pour l'hôpital, avant si ça se ferme, nos anciens vont partir. Est-ce que là, il y aurait moins d'inscriptions potentiellement, ça pourrait...
Alors honnêtement, j'ai même pas envie d'envisager ce scénario, tellement tout ça commence à devenir franchement rageant, quoi, parce qu'effectivement, on avait déjà mis en avant au moment de la bataille pour conserver la chirurgie d'urgence, la maternité, on avait mis en évidence le caractère spécifique du DIWA rural, montagnard, avec des distances longues à parcourir. On avait évoqué aussi le cas justement, notamment de la section sport nature, et puis du fait tout simplement qu'on a des gens ici qui ont envie d'aller se promener en montagne, de pratiquer l'alpinisme. C'est le cas des habitants du DIWA, mais c'est aussi le cas des touristes qui viennent ici en vacances. Et tout ça, évidemment, augmente le risque d'accidentologie, on le sait bien. Tout ça, c'est des éléments qu'on a mis sur la table tellement de fois. Et évidemment, on les remettra sur la table s'il le faut, notamment pour obtenir ce deuxième poste d'infirmier. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est que l'ensemble de ces responsables, que ce soit au niveau des ministères, des rectorats, des députés ou des élus locaux, entendent qu'on a le droit de vivre ici et qu'il faut qu'ils puissent continuer à y avoir une vie dans ces territoires ruraux et montagnards. La réalité, c'est que si on continue à laisser faire cette dégradation du service public, cette disparition des services publics, petit à petit, c'est un territoire qui va mourir.
Un petit blanc pour réfléchir. On passe à un autre sujet, l'agriculture.
Vous aviez... Oui, j'ai essayé de trouver quand même des points positifs, oui, pour ce compte-rendu de mandat. Et de fait, dans les rapports de cette commission permanente, il y avait... un nouveau dispositif qui est mis en place au niveau de la région et qui me semble aller dans le bon sens, c'est la mise en place d'un prêt d'honneur pour les installations en agriculture. Concrètement, on sait tous que la question de l'installation est une difficulté du monde agricole, c'est-à-dire que des gens qui souhaiteraient s'installer, qui ne sont pas issus d'une famille d'agriculteurs, qui ont des difficultés déjà à avoir accès à du foncier agricole, et qui en plus ne sont plus forcément assez jeunes pour obtenir ce qu'on appelle la DJA, c'est-à-dire la dotation aux jeunes agriculteurs qui est pourvue par l'État. Tout ça provoque un certain nombre de difficultés pour ceux qui voudraient s'installer. Et puis, généralement, il y a un problème financier, tout simplement. Voilà, il faut avancer de l'argent pour s'installer. Et les banques ne prêtent pas, concrètement, aux gens qui s'installent en agriculture, ne considèrent pas ça comme un métier d'avenir. Ils devraient regarder les nouveaux rapports qui ne cessent de sortir sur... la dégradation du libre-échange mondial sur le cours des matières premières et sur les risques de pénurie alimentaire, et ils se rendraient compte que ce serait un bon investissement pour le futur. Toujours est-il que donc on se heurte beaucoup à ces difficultés de trésorerie, d'avance et de finances. Et donc là, l'idée est de pouvoir prêter à taux zéro et sans prendre de garantie sur les biens personnels de la personne qui s'installe pour faciliter son installation et qu'elle ait accès à l'argent nécessaire pour se lancer. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Alors, comme on n'est jamais content, évidemment, on peut regretter qu'il n'y ait aucun critère qui, pour nous, sont des critères de garantie aussi de succès de cette installation, notamment, par exemple, sur le fait d'aller vers de la polyculture, de manière à ne pas être trop secoué si une maladie ou un gel vient impacter une culture. Quand vous êtes en polyculture, une variété est touchée, vous avez d'autres espèces qui, elles, peuvent garantir quand même un minimum de récolte. Donc il n'y a pas d'objectif de polyculture, il n'y a pas d'objectif non plus pour aller vers des cultures qui soient moins gourmandes en eau, qui est une ressource dont on sait qu'elle risque de se raréfier de plus en plus dans les années qui viennent. Bon, il n'y a pas non plus, évidemment, de critères pour aller vers une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Mais enfin, c'est un dispositif qui quand même va dans le bon sens pour tous ceux qui souhaitent s'installer en agriculture, et c'est aujourd'hui des installations qu'on ne peut qu'encourager.
Je vais faire une question que les médias aiment beaucoup faire. Est-ce que, du coup, quand c'est une bonne proposition faite par la droite, vous la votez ?
Oui, absolument. Voilà. Quand c'est une bonne proposition, d'où qu'elle vienne, on la vote. Et ça a été le cas pour ce nouveau prêt d'honneur.
Il n'y a pas de critère. Est-ce qu'on pourrait, avec un esprit tordu comme le mien, imaginer que, en suivant toutes les orientations budgétaires qui ont été faites par la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis qu'elle est en place, avec Laurent Wauquiez à sa tête, qu'il y aurait des préférences au prêt à l'installation pour des personnes enregistrées à la FNSEA, par exemple, versus ceux qui seraient à la Confédération Paysanne?
Alors, on ne peut pas affirmer ça. Par contre, ce qui est certain, et c'est une chose sur laquelle on a beaucoup bataillé, notamment la première année du mandat, parce que c'est à ce moment-là que se sont passées les principales délibérations sur les questions agricoles, c'est qu'un certain nombre de tâches qui étaient des tâches justement d'aide à l'installation, d'accompagnement, de conseil auprès des agriculteurs, et notamment sur des accompagnements et du suivi sur la conversion en agriculture biologique, toutes ces tâches qui jusqu'ici étaient assurées par des réseaux un peu historiques, liés à la Confédération Paysanne ou pas d'ailleurs, ont pour la plupart été sorties de ces réseaux et confiées aux chambres départementales d'agriculture. Or, il se trouve que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des chambres départementales d'agriculture, à l'exception de celle du Puy-de-Dôme, sont toutes majoritairement FNSEA. De fait, aujourd'hui, la plupart des aides régionales en matière agricole passent par un guichet unique qui est la chambre d'agriculture et donc, en partie, on peut dire, la FNSEA. De là à dire que ça crée un filtre, moi je ne peux pas aller jusqu'à cette conclusion-là, mais en tout cas c'est un risque.
Ça pourrait faire comme pendant les guerres de religion, il faudra faire semblant d'être catholique par exemple, ou d'être FNSEA pour obtenir son prêt. Bon, il y a des drôles d'arbitrage quand même aussi à cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette commission permanente du 20 septembre en a délivré quelques-uns et vouliez qu'on s'amuse à faire des comparatifs. C'est pas le bon mot, s'amuser.
Ah non, c'est même parfois franchement à pleurer tellement certains choix paraissent insensés et absurdes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que la région, c'est comme un gros portefeuille, en fait. C'est-à-dire que nous, à la région, on n'a pas de pouvoir législatif ou réglementaire, on ne vote pas de loi. Et finalement, notre tâche principale, c'est de déterminer dans le budget de la région, qui est principalement constitué des dotations de l'État. L'État donne de l'argent à la région pour mener ses politiques. Notre rôle, c'est de déterminer comment cet argent, finalement, est partagé et distribué entre différents programmes politiques et différents acteurs. Et c'est là où le bât blesse, puisque ces arbitrages budgétaires sont évidemment toujours éminemment politiques, et que les arbitrages qui sont faits aujourd'hui nous paraissent, en tout cas à nous, groupe RCES, parfois totalement absurdes. Alors j'ai effectivement deux exemples qui me paraissent assez éclairants et sur des sommes à peu près équivalentes, puisqu'il s'agit évidemment de comparer des choses comparables. Dans cette commission permanente, on a par exemple, alors nous on ne l'a pas voté, mais a été soumis au vote et adopté, une aide, je rappelle, on parle là d'argent public, dans un contexte de restriction budgétaire. La région a donc décidé de donner 18 000 euros pour aider à l'organisation d'un congrès des experts comptables. Donc une profession libérale qui a priori se porte pas si mal et qui va bénéficier d'une aide en termes d'argent public à hauteur de 18 000 euros.
Pourquoi pour leur petit four, tout ça, pour louer la salle, des trucs comme ça quoi.
Voilà, pour l'ensemble du congrès. À côté de ça, une demande d'aide de 10 000 euros, donc moins que 18 000 euros.
Ouais,
hein,
ouais.
Une demande d'aide de 10 000 euros pour emmener des jeunes en montagne dans la région de Grenoble a été refusée. Donc d'un côté, on aide les experts comptables à se réunir en congrès. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils se réunissent en congrès, hein, mais je ne suis pas sûre que ce soit à la région de financer ça. Par contre, d'un autre côté, des jeunes, des lycéens, dont les classes les emmènent en montagne, parce que ce n'est pas parce qu'on est lycéen à Grenoble qu'on a forcément la possibilité de le faire dans son contexte familial. Et bien, cette fonction essentielle de l'éducation publique, du lycée, qui est d'emmener les jeunes dans la nature, de leur apprendre à découvrir leur environnement et même d'un point de vue purement économique, hein, de créer de futurs touristes de la montagne pour faire marcher cette fameuse économie de la montagne. Et ben ça, par contre, c'est des projets voilà, qui ne sont plus financés aujourd'hui par la région. À côté de ça, juste pour faire une petite parenthèse, parce que c'est un sujet récurrent de ce mandat.
C'est ça, ils auraient pu apprécier ce que vous allez dire.
Sur une somme qui est sans proportion avec ces pauvres 10 000 euros qui étaient demandés, la commission permanente vient de voter à nouveau 1,9 million d'euros pour de la neige artificielle, des canons à neige et des retenues collinaires dans ces mêmes montagnes.
Voilà, mais bon, les lycéens n'en profiteront pas et puis finalement peut-être n'apprécieront jamais cette neige artificielle. Voilà,
si un jour ces canons à neige peuvent fonctionner, puisque on sait que pour fonctionner, ils ont non seulement besoin d'eau et d'énergie, ce qui va commencer à devenir de plus en plus critique, mais aussi de températures froides, ce qui va être de moins en moins le cas. Et là aussi, les rapports scientifiques se succèdent et vont absolument tous dans le même sens.
L'autre arbitrage, il est à 200 000 euros celui-là.
Oui, 200 000 euros pour remettre tous les panneaux des réserves naturelles régionales de la région aux nouvelles couleurs du logo Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors heureusement qu'ils n'en ont pas ouvert une de plus alors. Hein. Non, c'est une blague à part.
Oui, c'est peut-être pour ça effectivement que certains parcs naturels régionaux sont abandonnés par Laurent Wauquiez.
Non, mais alors ça c'est incroyable. Donc on a changé le logo qui lui déjà a coûté un certain prix, qui est assez aberrant pour un logo pas terrible en soi. Enfin, c'est mon avis personnel, mais il n'est pas hyper original. Et donc là, on va juste changer un logo sur l'ensemble des panneaux.
Voilà, alors c'est 200 000 euros, hein, c'est uniquement pour les panneaux des réserves naturelles régionales. À ça, il faut ajouter par exemple là, un appel d'offres qui vient d'être lancé pour des vêtements de travail aux couleurs de ce nouveau logo pour 165 000 euros. Il faut rajouter à ça les plateaux de l'ensemble des cantines des lycées sur lesquels apparemment la région veut aussi apposer son logo, l'ensemble des panneaux qu'on commence à voir fleurir dans les entrées de villages pour indiquer que la région aide les communes.
Sur l'autoroute.
Donc effectivement, tout ça mis bout à bout, plus les TER, les cars régionaux, etc., commence à représenter une certaine somme qui est loin d'être anodine.
Est-ce que ça paraît pas normal quand même de... Voilà, puisqu'il y a un nouveau logo...
En fait, c'est comme toujours. C'est une question de priorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous répète à longueur de temps, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de la région, qu'on est en restriction budgétaire, qu'il faut faire des économies de fonctionnement, etc., etc., à ce moment-là, il faut être clair sur les priorités. Ça veut dire que concrètement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout faire. S'il n'y a pas assez d'argent pour tout faire, quelle est la logique qui conduit un jour un responsable politique à dire « Notre priorité, à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, va être de mettre le logo de la région sur des panneaux, des plateaux de cantine et des vêtements de travail. » C'est ça la vraie question.
Si on voulait comprendre, selon vous, pourquoi est-ce qu'il faut donc quand même changer ces logos ? Alors pourquoi est-ce que ça devient une priorité ? C'est l'image du, je sais pas, de la représentation nationale de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour être tout à fait franche avec vous, je me suis posé la question naturellement. J'en ai discuté autour de moi et aujourd'hui, je n'ai aucune réponse à apporter à cette question tellement cela me semble absurde. Mais ça me semble absurde pas en soi. Ça me semble absurde quand je vois les autres décisions qui sont prises. Pour ces 200 000 euros là, de panneaux dans les réserves naturelles régionales qui sont changés pour y mettre un nouveau logo, on a en face, dans le même temps, au même moment, un dispositif qui s'appelle le REMERA, qui est un registre indépendant qui suit les incidences de malformations génétiques et qui les répertorie dans un registre et qui, quand il y a un taux trop élevé de malformations génétiques dans un même lieu, va aller regarder s'il y a des éléments liés à l'environnement, liés aux pollutions, qui peuvent expliquer ces malformations génétiques. On peut penser qu'on est là sur une mission qui relève de questions de santé publique autrement plus urgente qu'un nouveau logo. Et bien, cette association, le REMERA, est en train de mettre la clé sous la porte parce que la région a décidé de mettre fin à sa subvention qui n'est pas de 200 000 euros, qui est moitié moindre. Donc concrètement, ça veut dire qu'il suffisait de remettre aux nouvelles couleurs de la région qu'un panneau sur deux dans les réserves naturelles régionales pour sauver un registre indépendant des malformations génétiques dans la région, qui vient de mettre en évidence, là par exemple, dans l'Ain, plusieurs cas de nourrissons qui sont nés avec une malformation des membres supérieurs. Avec ce choix financier de la région, nous ne saurons pas pourquoi ces nourrissons sont nés avec une malformation à la naissance. Voilà le type de responsabilité politique que comportent ces arbitrages budgétaires. Et je crois qu'il y a là une responsabilité des décideurs qu'il faut pointer maintenant et pointer sans faux semblant et sans langue de bois, puisque en réalité c'est bien à ce genre de questions que se réduit une fois enlevés les brouffes et la communication et le blabla. C'est de ça dont on parle quand on parle de l'action de la région. On parle de ces arbitrages budgétaires-là qui échappent aujourd'hui à toute logique de service public et d'intérêt général.
Dans le cadre de cette commission permanente, ces arbitrages sont présentés de cette manière-là, la manière dont vous le faites là, ou alors tout simplement, quand on a rayé les 100 000 à l'association dont vous parlez, il n'y a pas de débat?
Alors, évidemment, ces arbitrages ne sont jamais présentés de cette manière-là, puisque les choses sont présentées commission par commission, ligne budgétaire par ligne budgétaire, et que quand vous faites ces rapprochements, on vous explique que ce n'est pas les mêmes lignes budgétaires, que ce n'est pas comparable. Il y a toujours, évidemment, de fausses bonnes raisons qui sont mises en avant. Mais moi, je continue à demander à ce qu'on m'explique et à ce qu'on me convainque qu'il n'y a pas de rapport entre les 200 000 euros de panneaux et les 100 000 euros en moins à REMERA, puisqu'on parle là du budget de la région. Et le budget de la région, il est construit par l'exécutif de la région à partir de la somme qui lui est allouée par l'État pour remplir ses missions de service public et d'intérêt général. Donc ce sont des choix, ce sont des décisions qui pourraient être autres et qui sont celles-là, et qui sont celles-là de manière délibérée, puisque l'ensemble des demandes sont instruites, font l'objet de concertations au sein de la majorité, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui choisit de présenter tel rapport et de ne pas présenter tel autre au vote des conseillers régionaux.
Est-ce qu'on peut anticiper, dans le cadre de l'étude du budget annuel, que telle ou telle ligne a effectivement baissé? Là, par exemple, bon, en termes de santé publique, donc c'est le programme, on va dire, santé peut-être de la région Rhône-Alpes, on aurait pu déjà voir que ça avait baissé par rapport au budget com.
Alors, c'est en partie le cas. C'est-à-dire que, en fait, nous, en tant qu'élus régionaux d'opposition, quand on reçoit les tableaux pour pouvoir les potasser avant le débat d'orientation budgétaire qui a lieu tous les ans au mois de décembre, on reçoit des tableaux qui sont des tableaux très synthétiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas le détail de la manière dont les sommes vont être affectées. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas avoir le détail de toute manière, puisque c'est des grandes sommes qui sont allouées, et ensuite, c'est au fur et à mesure des demandes, des appels à projets, etc., que cette somme est petit à petit distribuée tout au long de l'année. Donc, on n'a que des grandes lignes et des grandes orientations. Ces grandes orientations, elles découlent des délibérations dites cadres qui sont adoptées en session plénière. Donc en fait, notre travail consiste à, lors des sessions plénières, au moment de ces délibérations cadres, à essayer d'y apporter des modifications pour que ça aille dans le sens qui nous paraît être le bon, ce qu'on fait en déposant des amendements, en les défendant et en les soumettant au vote. Et puis ensuite, au moment du débat budgétaire, là aussi, d'essayer de peser, et c'est ce qu'on fait à nouveau par le biais de ces amendements et du débat qui a lieu pendant les sessions plénières. Après, on reste dans une logique de 5e République et des institutions de cette 5e République et de résultats aussi du suffrage universel. Et que la réalité, c'est que nous sommes une minorité d'opposition. Donc, nous n'avons que le poids qui est celui que les électeurs nous donnent. Et aujourd'hui, ce poids est très minoritaire. Donc, la majorité de Laurent Wauquiez a les mains libres pour faire passer ces dispositifs de la manière dont elle l'entend.
Et c'est aussi pour ça que vous êtes ici, Corinne Morel-Darleux, sur RDIWA, pour faire entendre une autre voix et peut-être élever la conscience qui aura envie de s'élever. Je voulais dire d'ailleurs qu'il existe quelque chose, hein, peut-être pour Laurent Wauquiez, qui s'appelle des autocollants. Ça marche même sur les plaques d'immatriculation, hein, par tous les temps, même du sel, hein, et ça reste. Donc voilà, un petit autocollant sur les panneaux des parcs naturels régionaux, à mon avis, ça coûte moins cher. À l'époque de cette... on va dire prise de conscience écologique, peut-être s'il y en a une. Vouliez-vous aussi parler du lobby de la chasse ?
Oui, c'est vrai qu'on on a beaucoup entendu parler au niveau national des chasseurs à l'occasion de la démission de Nicolas Hulot du ministère de la Transition écologique, puisque c'est un des éléments qu'il a donné, même si c'est pas le seul. Beaucoup de médias, du coup, se sont engouffrés dans cette brèche-là pour mettre en scène, on va dire, un duel entre Nicolas Hulot et le lobby des chasseurs. Et du coup, en fait, on a été contactés, nous, au niveau du groupe, par pas mal de journalistes nationaux, parce qu'il se trouve qu'une des élues de notre groupe, qui siège dans la commission afférente, qui est Fabienne Grébert, a beaucoup travaillé sur les subventions de la région, justement, à la Fédération régionale de la chasse en Auvergne-Rhône-Alpes.
On avait levé 2-3 lièvres, hein, par exemple, il y avait de l'argent qui avait été fait pour construire des locaux, alors qu'en fait, non.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un feuilleton à épisode, cette histoire, puisque il y avait eu tout d'abord le fait que Laurent Wauquiez avait choisi de donner une subvention de 3 millions d'euros à la Fédération régionale de la chasse pour qu'elle s'occupe d'éducation à l'environnement à la place d'un dispositif qui existait avant et qui incluait d'ailleurs déjà les chasseurs, mais aux côtés aussi d'autres associations de défense de l'environnement comme la FRAPNA ou la LPO. Donc là, il a décidé de sortir la FRAPNA et la LPO du dispositif et de donner l'ensemble de cette mission et du budget qui va avec, qui est quand même pas rien, hein, 3 millions d'euros, à la Fédération régionale de la chasse. Ensuite, il y a eu effectivement cette histoire de subventions qui ont été accordées là aussi aux fédérations locales pour des locaux de chasse qui avaient attiré notre attention, parce que parmi ces locaux qui devaient donc être rénovés avec cet argent public, un certain nombre venaient d'être ouverts. Donc c'était un peu étonnant de voir que parfois, quelques jours après leur ouverture, ils avaient déjà besoin de rénovation. Et puis Fabienne Grébert a fait un gros travail cet été. Elle a profité des vacances pour aller éplucher un certain nombre de dossiers. Et elle s'est rendue compte qu'en réalité, ces aides pour rénovation de locaux, en fait, portaient pas du tout sur de la rénovation, comme ça avait été dit, mais sur des aides pour de l'achat de matériel. Je précise bien que c'est en dehors des 3 millions d'euros, hein, donc c'est de l'argent en plus. Et donc, c'est là aussi de l'argent public régional qui est allé sur de l'achat de matériel, alors de l'achat de matériel de chasse, hein, donc on parle de couteaux, de chambres froides, de tables d'éviscération, ce qui, voilà, là aussi pose la question des priorités budgétaires de la région, et puis surtout du lien de Laurent Wauquiez, de l'exécutif, avec la Fédération régionale de la chasse. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de jeter l'anathème pardon, sur l'ensemble des chasseurs et pour vivre dans le Diois, je pense que voilà, on a une vision de la chasse qui n'est pas tout à fait la même que peuvent en avoir un certain nombre d'écologistes qui vivent en ville. Toujours est-il que là, quand même, ça commence à faire effectivement une succession de beaucoup d'éléments qui, à mon avis, ne bénéficient pas à l'image des chasseurs quant à l'utilisation de ces fonds publics par la région. C'est-à-dire que tout ça commence à ressembler fort quand même à des accointances qui sont voilà, en réalité au bénéfice de personne, parce que ça contribue quand même pas à donner une image très noble de l'activité.
Et ça continue à diviser sur ce sujet précis. Être républicain, c'est cool, Corinne Morel-Dalleux.
Vous voyez, un dernier petit exemple pour la route, parce que celui-là, en plus, est tout frais et je dois dire que j'ai encore un peu du mal à m'en remettre. Mais c'est vrai que c'est pour montrer que, bon, quand même, la vie est quand même pas si mal fichue de temps en temps, puisque hier, dans le Dauphiné libéré, on a appris que la ville de Divonne-les-Bains, qui est près de Genève, et côté région Auvergne-Rhône-Alpes, cette ville de Divonne-les-Bains a reçu la visite de Laurent Wauquiez en tant que président de région, mais à l'occasion des journées parlementaires LR. Ce qui fait déjà un truc un peu bizarre.
Bon, il n'est pas donc parlementaire en plus.
Non, tout à fait. Et donc, on apprend que le président de région, Laurent Wauquiez, à l'occasion de ces journées parlementaires LR, a été accueilli par le maire de Divonne-les-Bains. Jusqu'ici, c'est assez logique, qui s'appelle Étienne Blanc. Et il a été reçu par le maire Étienne Blanc, donc, qui est aussi LR, à l'occasion de l'annonce d'une aide de la région de 230 000 euros pour un espace de réception de 400 mètres carrés qui va bénéficier au golf et à l'hippodrome de Divonne-les-Bains. Alors, 230 000 euros pour un espace de réception de 400 mètres carrés pour le golf et l'hippodrome de Divonne-les-Bains. On rejoint mes interrogations sur les arbitrages budgétaires, mais surtout, il se trouve que le maire de Divonne-les-Bains, Étienne Blanc, LR, est également premier vice-président, LR, de Laurent Wauquiez à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il est également l'ancien président de l'hippodrome de Divonne-les-Bains. Tout ça fait beaucoup de
conflits d'intérêts,
coïncidences. Et montre que effectivement, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il vaut mieux être LR, il vaut mieux être cumulard, avoir un golf et un hippodrome dans sa ville, que une cité scolaire, un hôpital public et une gare de TER.
Bon, vous l'aviez déjà fait avec Gilles Chabert. Là, c'est le même cas. Là, c'est pas possible. Franchement, ça passe pas ça.
Ce serait le même cas si Étienne Blanc était celui qui, à la région, instruit cette demande d'aide, s'il intervenait en session pour la faire voter et s'il prenait part au vote. Malheureusement, depuis la saisine du procureur de la République sur l'affaire Gilles Chabert, les élus, les républicains, sont beaucoup plus vigilants sur leur comportement. Alors on peut s'en féliciter d'avoir fait évoluer les pratiques formelles. Par contre, effectivement, il semble que les pratiques informelles, elles, continuent à perdurer.
Incroyable, enfin. Donc là, il n'y a vraiment aucun recours. Ça, c'est quelque chose qui va passer comme ça, tranquillement.
On sait tous
ça, c'est bien
que
fait, quoi.
La question de la loi étudie la légalité et non la légitimité. Et donc, malheureusement, nous sommes limités à des cas d'infraction que la loi considère, et ça, c'est pas toujours basé effectivement sur un sentiment de justice sociale.
Bon, bah revenons dans notre bonne Drôme, puisque vous êtes l'élu de la Drôme quand même, on pourrait le rappeler. Il y a quelques points positifs, d'autres beaucoup moins, sur le train.
Oui, le dossier train. Quelques nouvelles, effectivement, parce qu'il y a des choses qui bougent. Alors, une chose qui bouge plutôt dans le bon sens, c'est le train de nuit Paris-Briançon. On était
même carrément énorme, ça, c'est là on a une certitude enfin.
Ouais, tout à fait, on était inquiets parce que vous savez que sur les 8 trains de nuit qui circulaient en France, 6 ont été fermés. Il reste plus que 2 lignes, dont notre ligne, le train de nuit Paris-Briançon. Et on était inquiets de sa pérennité parce que il se trouve qu'entre Paris et Valence, ce train était accolé à un autre train, le Paris-Nice. Donc les deux rames se séparaient à Valence et la suppression du Paris-Nice faisait craindre que du coup le Paris-Briançon en pâtisse et soit pas assez rentable. Puisque maintenant on parle de rentabilité quand on parle de services publics et de trains. Et donc on était inquiets, il se trouve que là on vient d'avoir l'annonce de la part du ministère et de l'État que ce train allait être non seulement maintenu, mais également rénové. Et pour ceux qui, comme moi, le prennent régulièrement, ils savent à quel point effectivement il y a quand même besoin de quelques aménagements. Donc il y a 30 millions qui vont être investis sur les deux lignes de train de nuit qui restent, le Paris-Briançon et le Paris-Rodez, ce qui est une bonne chose, d'autant qu'on peut se souvenir que les trains de nuit autrichiens, la compagnie OBB, qui a véritablement relancé le train de nuit en Autriche, mais même carrément en Europe, hein, puisque aujourd'hui ils ont des lignes de train de nuit qui vont jusqu'à Rome ou jusqu'à la Croatie, et bah, elle a démarré comme ça en Allemagne, puisque la compagnie autrichienne, au départ, en Allemagne, a racheté à la Deutsche Bahn, donc l'équivalent de la SNCF, qui avait abandonné l'idée de train de nuit, et bien la compagnie autrichienne avait racheté 15 rames pour 40 millions. Et c'est à partir de là que le train de nuit a pu commencer à être relancé en Allemagne. Donc on peut espérer qu'à partir de ces deux trains de nuit qui ont réussi à être sauvés du massacre général, avec effectivement de la rénovation, avec du confort en plus, les banquettes vont être vues, les couchettes, les sanitaires, il y aura de la Wi-Fi à bord, puisque maintenant c'est un incontournable, paraît-il. Eh bien, on peut espérer que cela relance la fréquentation et fasse la démonstration que non seulement le train de nuit est utile, qu'il est souvent moins coûteux que le TGV et qu'en plus, il est bon pour l'environnement et pour les transports en commun. Donc voilà, peut-être sera-t-il le début d'un renouveau du train de nuit en France. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.
Et puis pour nous, très concrètement, c'est-à-dire que D ne fermera jamais.
Alors, la question est de savoir si l'ensemble des arrêts vont être maintenus. Puisque là-dessus, par contre, nous n'avons aujourd'hui aucune certitude, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri qu'il soit décidé que ces petits arrêts, comme dit, ne soient pas maintenus. Donc il faudra rester vigilant. Et puis il y a aussi d'autres points de vigilance qui concernent une autre problématique qui est celle de l'étoile de Veynes et qui n'est pas complètement étrangère à cette question du train de nuit, puisque le Paris-Briançon, donc comme on vient de le dire, il passe par Valence, par Die et il poursuit sur Gap. Il se trouve que la portion Valence-Gap va être fermée pour travaux entre septembre et décembre 2019. Et qu'une des solutions pour ne pas interrompre le service, notamment de ce train de nuit, serait de le faire passer par Grenoble. Puisqu'on a un Valence-Grenoble et un Grenoble-Gap qui permettrait donc d'avoir une continuité de service. Sauf que cette ligne Grenoble-Gap, cette fameuse ligne des Alpes, elle est aujourd'hui sur la sellette, elle est directement menacée. C'est une des lignes de cette fameuse étoile de Veynes sur laquelle il y a beaucoup de mobilisation à la fois des habitants et des élus des zones concernées. Et donc cette fameuse ligne Grenoble-Gap, alors elle aussi vient de recevoir à la fois une bonne nouvelle et un oui mais. La bonne nouvelle, c'est que ce qui manquait jusqu'ici pour sécuriser cette ligne, c'était un engagement de l'État en matière de financement, puisque c'est une ligne qui a besoin de travaux pour être sécurisée.
À flanc de falaise.
Voilà, magnifique ligne. L'État vient de donner son accord pour financer à la hauteur de 40% ces travaux. Et donc sauver la ligne. Mais Il déclare dans le même temps qu'il le fera dans le cadre du prochain contrat plan État-Région en 2021. Or, la SNCF Réseau parle de son côté de risques pour sécurité, de suspension de la ligne en décembre 2020. On se retrouve donc dans une situation totalement ubuesque où l'État s'engage pour des travaux, mais qui risque d'intervenir après la fermeture de la ligne pour manque justement de travaux sur la ligne. Donc, la mobilisation, évidemment, se poursuit de plusieurs manières, notamment par une mobilisation importante, et il faut le souligner, puisque ce n'est pas toujours le cas, des élus et des communautés de communes concernées. La communauté de communes du Diois, notamment, et entre autres à l'initiative d'une grosse réunion qui va avoir lieu le 9 octobre à Vennes pour réfléchir avec l'ensemble des communes concernées par l'étoile de Vennes sur un projet de développement local, justement autour de ces gares, autour de ces lignes ferroviaires de l'étoile de Vennes, en faisant appel à des fonds européens pour permettre justement de maintenir ces gares, ces haltes voyageurs et l'ensemble de ces lignes. Donc on espère beaucoup de cette réunion et on espère surtout que l'État va comprendre qu'il s'agit d'agir avant la suspension de la ligne et pas une fois que ce sera trop tard. Un autre sujet qui nous concerne directement sur cette ligne de TER qui passe par Die, c'est la nouvelle grille horaire qui va rentrer en service au mois de décembre. On a eu la surprise de constater qu'un des trains les plus fréquentés de la ligne, qui circule entre Romans-sur-Isère et Gap, c'est le numéro 17359, qui part de Romans à 16h24 et qui s'arrête à Die à 17h54. C'est donc le train qui fait des sorties d'école, des sorties de bureaux.
En passant par la gare TGV.
En plus par la gare TGV, donc c'est probablement le plus utilisé. Eh bien, aux surprises, ce train est supprimé dans la nouvelle grille horaire. Donc là aussi, une mobilisation importante s'est mise en place. On a été un certain nombre à interpeller de tous côtés. J'ai écrit évidemment de mon côté à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une des difficultés qu'on a, c'est que cette ligne de TER, aujourd'hui, elle est gérée non pas par la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais par la région PACA, puisqu'elle est à cheval sur les deux régions. Donc évidemment, tout le monde se renvoie la balle. La réponse que nous avons eue du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'en gros, ils ne pouvaient rien faire, mais qu'un car serait mis en place à la place du train. On sait tous évidemment qu'un car et un train, ce n'est pas tout à fait la même chose pour tout un tas de raisons, de service aux usagers, de transport de vélo, de temps, de sécurité, de pollution, voilà, pour toutes ces raisons-là qui sont connues et archi connues. Donc la mobilisation évidemment se poursuit pour maintenir le TER sous forme de train et non de car. Il y a une manifestation qui est appelée par le collectif Diois Gare à nous, qui se tiendra à la gare de Die le 12 octobre entre 17h et 20h. Et donc là aussi, évidemment, on invite l'ensemble des habitants du Diois à y participer le plus nombreux possible.
Est-ce qu'une solution est envisageable de co-gestion de Gap jusqu'à à peu près le col de Cabre par la PACA et puis du col de Cabre jusqu'à Romans par Rhône-Alpes? C'est possible que deux régions co-gèrent comme ça une ligne?
Je ne sais pas si c'est possible et je ne suis pas sûre non plus que ça faciliterait beaucoup les choses d'avoir systématiquement à se mettre d'accord entre deux régions sur la ligne. Non, mais la solution surtout, c'est juste qu'à un moment donné, ces gens se rendent compte que ces trains du quotidien sont vitaux pour les territoires qu'ils traversent. Et ça, malheureusement, il n'y a qu'à un moment donné la mobilisation des usagers qui permettra qu'ils se rendent compte que leurs électeurs potentiels, en tout cas, leur demandent de maintenir ces trains. Après, il y a aussi des actions à avoir, pas uniquement en direction des régions qui sont certes organisatrices des transports, mais aussi en direction de la SNCF et de la direction régionale de la SNCF, qui est quand même la première concernée aussi par, par ces choix. Donc là, il faut pour le coup s'adresser à tous ces interlocuteurs et jouer sur tous les tableaux. Ce qu'on pouvait faire malheureusement avant par le biais des comités de ligne, qui étaient justement des moments où on avait tout le monde autour de la table et où on pouvait venir exprimer un certain nombre de choses. Comités de ligne qui ont été délaissés et qui ne se tiennent plus depuis l'arrivée à la présidence de la région de Laurent Wauquiez, dont on nous a dit après moult et moult appels qu'ils allaient être réactivés, mais dont on n'a toujours pas vu le renouveau.
Pour terminer ce compte-rendu de mandat radiophonique, Corinne Morel-Darleux, un rendez-vous que vous vouliez donner, un autre, hein, puisqu'on peut aller déjà se mobiliser pour cette ligne, Alternatiba.
Oui, alors c'est pas tout à côté, c'est à Bayonne. Ce sera les 6 et 7 octobre, mais il y a beaucoup de covoiturages qui sont en train de s'organiser, y compris au départ de Die, parce que effectivement, ce mouvement-là risque bien d'être historique par sa portée. Alternatiba, c'est un mouvement pour le climat et la justice sociale qui a vu le jour il y a 5 ans à Bayonne, pour le premier village des alternatives, qui avait déjà été un succès assez inespéré. Depuis, ça a essaimé un peu partout en France, ça a pris de l'ampleur, ils ont été très présents notamment au moment des contre-sommets pour la COP21 à Paris. Il y a eu beaucoup d'actions, de fauchage de chaises, de formation à l'action non-violente et à la désobéissance civile.
Il y a toute une tournée en France aussi.
Toute une tournée en France avec l'Alternatiba Tour à vélo. Il y a eu des villages des alternatives qui se sont construits un peu partout. Bref, c'est un vrai mouvement pour le climat et la justice sociale qui s'est construit et développé loin des caméras de télévision, mais de manière assez ancrée sur le terrain depuis 5 ans. Et qui, là, organise un rassemblement de très grande ampleur, 200 personnalités de la société civile, des scientifiques, des chercheurs, des politiques, des associatifs, qui vont participer à des débats, il y a des conférences pendant 2 jours, il y a des concerts qui sont prévus, il y a des ateliers, des stands. On attend énormément de monde et on est évidemment dans une ambiance propice à ce besoin de se retrouver pour discuter de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, je parle évidemment de cette espèce de syndrome d'effondrement qu'on ressent tous après un été un peu apocalyptique, de canicule, de record de chaleur, de sécheresse à des points jamais vus qui mettent...
Même pas encore fini à l'approche de l'automne.
Pas encore fini, hein. Là, pas si loin de chez nous, hein, on a le lac d'Annecy par exemple, qui est à un niveau bas, qui n'a jamais été vu.
Il coule plus.
Même pendant la canicule de 2003. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, au lac d'Annecy, il faut faire plusieurs dizaines de mètres pour avoir de l'eau jusqu'aux genoux, ce qui est évidemment très inquiétant et qui inquiète beaucoup d'ailleurs les scientifiques. Donc si vous ajoutez à ça, effectivement, la démission de Nicolas Hulot, qui pour un certain nombre de personnes a agi comme un électrochoc, plus le fait qu'on parle de plus en plus de collapsologie, hein, avec les travaux de quelqu'un comme Pablo Servigne, mais aussi de beaucoup d'autres chercheurs. Voilà, tout ça crée évidemment un climat particulier où la prise de conscience, je crois, est en train de grandir de manière considérable, et avec elle le besoin de s'organiser collectivement, de surtout pas rester chacun dans son coin sur des tactiques individuelles survivalistes, mais plutôt de s'organiser collectivement pour apporter une réponse politique à ça, que ce soit pour atténuer la catastrophe, à défaut de l'éviter, ou pour faire en sorte qu'elle se passe de la manière la moins injuste socialement possible. En tout cas, il y a plein de raisons aujourd'hui de s'investir encore plus que jamais, j'ai envie de dire, face à cet effondrement qui vient. Et Alternatiba à Bayonne, les 6 et 7 octobre, sera probablement une des plus grosses occasions qui nous sera donnée de le faire à grande ampleur. Donc voilà, il y a un appel là vraiment à un rassemblement historique, un appel au sursaut et à l'organisation de la société civile, puisque visiblement, il n'y a plus rien à attendre du côté ni de ce gouvernement, ni malheureusement, je dois le dire, de la plupart des dirigeants politiques aujourd'hui.
Et vous y serez, donc on pourra vous y retrouver sans doute.
Oui, tout à fait, j'y serai sur, sur deux débats. Un débat justement sur peut-on encore éviter l'effondrement, avec notamment Yves Cochet et d'autres participants. Et puis un débat aussi le lendemain, le dimanche, avec Julien Milanesi et José Bové sur la question des territoires en lutte et des territoires où s'inventent d'autres alternatives, où j'aurai l'occasion aussi de parler du Rojava au Kurdistan syrien.
Je vous invite tous les auditrices, auditeurs, à suivre un petit peu ce que vous faites sur vos réseaux sociaux ou blogs, et à tout un bel article de Nouvelle Agriculture au Rojava, là, très intéressant. On se retrouve après la prochaine plénière des 11 et 12 octobre prochains.
Voilà, tout à fait, ce sera une assemblée plénière et une commission permanente, donc sur deux jours, il devrait y avoir, là encore, pas mal de choses passionnantes à vous raconter.
Merci Corinne Morel-Darleux.
Merci.
Interview.
Ok, de beurre.
L'interview du jour.